La Midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet. Et bienvenue dans cette deuxième partie de la midinale de Radio Piquet. On ne sait pas siffler, donc on se met à chanter. On est toujours
c'est
le
pas non plus.
Merci. On est toujours le 7 novembre 2022 et on attaque la deuxième partie s'informer autrement. Et c'est Asgard qui se colle au premier sujet, il me semble.
Ouais, c'était pour parler, puisqu'on est dans s'informer autrement, d'une revue que j'ai découverte. Donc une revue qui est nouvelle pour moi, mais qui est une ancienne revue qui avant s'appelait Léna hors les murs. Et donc c'était la revue des anciens de Léna, quoi, où ils publiaient leurs articles. Et Léna est en refonte puisque Macron a décidé que ça allait disparaître et que ça allait être remplacé par l'INSP, l'Institut National de Services Publics. Du coup, cette revue est en refonte aussi. Et elle vient de publier, c'était en juin, ça fait un petit moment déjà, son premier numéro. Et du coup, elle l'a changé de nom, elle s'appelle Servir. Et,
France Servir.
Voilà. Et France Servir. Son premier numéro est donc sur la sécurité intérieure. Donc, belle adéquation entre. Ouais. Le titre de la revue et le sujet. Donc on a un éditorial qui manque pas non plus de grandiloquence, puisque l'éditorial s'intitule « Le Nouvel An 1 ». Donc on est quasiment dans une refonte républicaine cette fois-ci. Et du coup j'ai regardé, j'ai pas tout lu, mais j'ai regardé quelques articles, essentiellement en fonction des noms qu'il pouvait y avoir. Donc il y a un article de Frédéric Vaux dans un dossier sur l'adaptation de la sécurité intérieure aux menaces et aux évolutions de la société. Et l'article s'intitule « La police nationale, un service en pleine mutation ». Donc l'article n'est pas particulièrement intéressant puisque son actualité est plus éloquente que ce qu'il peut écrire, hein, Frédéric Vaux. Pour le coup, il y a un très bon article qui a été publié sur le site de la Quadrature du Net qui s'appelle « Examen de la LOPMI, refusons les policiers programmés » et donc qui est fait non seulement par la Quadrature du Net, mais par d'autres organisations. Ils sont appelés l'Observatoire des libertés et du numérique. Et on en apprendra beaucoup plus dans cet article que dans ce que peut dire Frédéric Vaux. Mais il y a malgré tout un point qui est intéressant quand même, c'est qui parle du déploiement des conventions de participation citoyenne. Donc ça c'est un dispositif que je ne connaissais pas vraiment, mais en gros il dit que ça repose sur des échanges d'informations entre les maires, les forces de l'ordre et des citoyens volontaires qui ont choisi de bâtir une société de vigilance. Donc cette société de vigilance, c'est un thème qui avait été abordé par Macron au début de premier quinquennat, puis pour le coup qui est particulièrement bien documenté par Vanessa Codaccioni dont on a parlé, qui a fait un excellent livre là-dessus et qui pointe en gros toutes ces transformations sociales qui ont pour but d'installer des politiques de délation, et puis... Bon, c'est des outils où des citoyens référents, comme dans ce, ça va être mis en place avec ces conventions citoyennes, ou qui vont servir à alimenter pour une grande part les services de renseignement et les fameuses notes blanches qui permettent pour une part ou de faire des procès aux gens, ou de les empêcher de manifester. Enfin bref, on a tout ça qui est en place. Alors ces conventions citoyennes, c'est un dispositif qui est antérieur à Macron. Hein, il y en a eu quelques-unes dans quelques villes. Mais donc là, l'idée que je retenais de la lecture de cet article-là, c'est l'idée de les répandre de plus en plus et de continuer à diffuser ce réseau de délation. Alors j'ai regardé un peu dans le coin où est-ce qu'il pouvait y en avoir. Il y en a par exemple à Plougastel d'Aoulas, où il y a une convention comme ça qui s'est mise en place, je crois que c'est vers 2019, où donc il y a des citoyens de référence qui collaborent avec la gendarmerie et qui, je pense, vont informer de tout ce qui peut se passer, que ce soit en termes d'infractions et de désordre urbain ou éventuellement de politique, hein, on peut imaginer. Il y en a un autre aussi d'article que j'ai, où j'ai jeté un coup d'œil parce que c'est quelqu'un qui est bien connu ici, hein. C'est Bernadette Malgorn. Donc qui a été préfète de la région Bretagne au début des années 2000, hein, et puis qui a acquis ce surnom de Bernie la Matraque, notamment par la manière dont elle a géré les contestations étudiantes qui avaient lieu à ce moment-là. Ça devait être contre la réforme LMD, donc sur l'autonomie des universités, et qui a été particulièrement répressive, puisqu'elle avait fait intervenir les canons à eau pas mal sur l'université de Rennes. Donc le nom de son article, c'est « Le préfet, responsable de la sécurité et de l'ordre public ». Alors, il y a quoi dans son article ? Il y a une espèce de déploration d'un abandon, d'un certain maintien de l'ordre à la française, notamment depuis l'affaire Malik Houssekine, et le fait de pointer le développement d'une société liquide où les réseaux jouent de plus en plus pour organiser des mouvements qui seraient violents, contestataires, type les Gilets jaunes, et la volonté de réinstaller le préfet comme référent de l'ordre public et de la sécurité, donc. Donc il y a une petite citation là que j'avais notée. La circulation du renseignement conditionne la pertinence des dispositifs qui doivent être adaptés en temps réel. Pour le maintien de l'ordre, l'autorité préfectorale doit respirer le même air que les manifestants et les forces de l'ordre. Bon, je comprends pas bien les tenants et les aboutissants de son article, mais je pense que ça accompagne aussi la modification du statut des préfets. Puisque dans le même temps que la dissolution que la disparition progressive de l'ENA, il y avait l'annonce faite de la part de Macron de supprimer le corps de métier des préfets, ce qui n'enlève pas la fonction, hein, il y aura toujours des préfets, mais ce qui fait qu'en gros, ce ne seront plus des fonctionnaires formés par l'État, mais des gens qui peuvent être nommés, quoi. Je pense qu'il y a une forme d'attaque conservatrice du côté de Malgorn pour conserver un des préfets de métier qui respire le même air que les flics et les manifestants.
Du gaz, quoi.
Oh, bah, je pense que c'est explicite, là. Je crois qu'elle parle même, je ne sais plus comment elle formule ça, mais elle dit que le préfet doit, comme les forces de l'ordre, être à portée de boulon. Donc bon, il y a 2-3 saillies comme ça qui sont assez amusantes, et puis on lui souhaite, hein, de rester à portée de boulon. Hein.
Ouais.
Et il y a un dernier article, alors je ne vais pas le lire en entier, mais j'en ai quand même pris un passage, notamment celui de la fin, donc qui est de Nunez, donc, et qui s'intitule « Les défis opérationnels et stratégiques du renseignement ». Donc, Nunez était, maintenant il est préfet de police de Paris, mais il était coordinateur de la politique antiterroriste et il était responsable de la stratégie de cette politique-là. Donc, dans la première partie, elle n'est pas spécialement... vous pouvez la lire, hein, c'est pas inintéressant, mais ça parle des menaces... il dit qu'il n'y a pas tellement de nouvelles menaces... de terrorisme sur le territoire. Enfin bref, il dit qu'on parlerait plutôt de menaces renouvelées que de nouvelles menaces. Donc après, on a pareil, à peu près le même discours sur le renseignement et la police que celui de Frédéric Vaux. Et donc la dernière partie de son article m'a plus intéressé. Et donc je vais commencer la lecture. La menace qui s'attaque le plus frontalement à notre société nationale est peut-être celle qui incube de l'intérieur. Le territoire enregistre incontestablement une montée des radicalités qui viennent mettre à mal notre modèle démocratique en lui préférant des formes d'expression contestataire violentes à l'image de la crise des Gilets jaunes. Les menaces subversives n'ont pas seulement changé d'échelle, elles ont changé de nature. Privilégiant autrefois un militantisme d'opinion et une activité revendicative visible, certaines mouvances extrémistes ont basculé dans la clandestinité, optant pour l'action radicale, violente et parfois terroriste. Une dizaine d'attentats, fomentés par des individus ou des groupuscules, principalement affiliés à l'ultra-droite et marginalement à l'ultra-gauche, a ainsi été déjoué en France ces 5 dernières années. Ces mouvances historiquement structurées autour d'idéologies politisées ont gonflé leur rang d'adeptes de théories racialistes, complotistes et conspirationnistes que l'urgence du traitement médiatique et les réseaux sociaux ont rendu virales et auxquelles la pandémie a donné un écho inédit. En relayant la défiance à l'égard des institutions, ces discours non seulement fragilisent l'unité républicaine, mais prêtent aussi le flanc à une instrumentalisation par les pays adverses, friant de décrédibiliser le modèle français. L'acquisition de technologies de pointe, idéalement souveraines, ne suffira pas à éviter le décrochage. Encore faudra-t-il que le droit suive sur des enjeux aussi décisifs que le contournement du chiffrement des communications, le traitement des données de masse ou l'usage de la biométrie et de la reconnaissance faciale. À cette fin, la communauté du renseignement doit impérativement jouer un rôle proactif en amont de l'élaboration de la norme pour bénéficier du cadre légal favorable à l'assouplissement de ses missions, ce qui suggère qu'elle doit redoubler de pédagogie et d'influence dans le débat parlementaire français et dans un contexte où les juridictions communautaires sont une source croissante du droit auprès des institutions européennes. Le droit communautaire, c'est le droit de la communauté européenne. En 2022, l'adoption d'une communication maîtrisée vers le grand public fait consensus entre les services, ne serait-ce que parce qu'elle se révèle profitable, voire nécessaire en termes d'attractivité et de recrutement. Mais les services négligent encore largement le fait que la communication est un puissant levier de valorisation de leurs actions et de leurs réussites nombreuses. Mise en œuvre de manière stratégique et coordonnée, elles deviennent une arme réputationnelle redoutable à la disposition du renseignement et l'instrument efficace de sa légitimation, tout en participant, et j'ai été surpris du terme, à l'acculturation de la société en la matière. À terme, rien n'interdira au renseignement français de se montrer plus ambitieux encore, en suppléant les stratégies de communication par une communication stratégique, à l'instar de ses partenaires anglo-saxons, qui, dans une logique dissuasive, n'hésite pas à déclassifier l'information et à dénoncer publiquement l'adversaire. Donc voilà, c'est sur cette question de suppléer les stratégies de communication à une communication stratégique que l'article m'intéressait particulièrement. Et du coup, on va passer un petit extrait, puisque Nunez est venu faire le service après-vente de Darmanin qui parlait d'écoterrorisme. Et donc on va passer la manière dont il organise cette communication stratégique.
Bonjour Laurent Nunez.
Bonjour.
On va revenir avec vous en longueur sur la sécurité à Paris, la feuille de route jusqu'aux Jeux de Paris dans moins de 2 ans maintenant. Mais d'abord, cette mobilisation dans les Deux-Sèvres contre des bassines agricoles géantes, 61 gendarmes blessés, le ministre de l'Intérieur qui parle d'écoterrorisme. Vous qui avez à gérer la menace terroriste, il y a une menace écoterroriste aujourd'hui en France et notamment à Paris ?
Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé sur les faits graves hein, qui se sont déroulés, notamment samedi, hein, sur les bassines. Il a évoqué le terme d'éco-terrorisme pour certains des individus hein, qui étaient présents sur cette manifestation. Je rappelle que le terrorisme, il y a une définition. Hein, ce sont tous les actes qui visent à créer des troubles graves à l'ordre public en vue de semer l'intimidation ou la terreur. Hein, c'est ça le terrorisme, la définition judiciaire. Puis vous avez un certain nombre d'actes qui sont listés par le code pénal. Il n'y a pas que les atteintes volontaires à l'intégrité physique, à la vie, il n'y a pas que les crimes, il y a aussi les dégradations, il y a les détériorations, il y a les destructions, donc ça c'est la définition judiciaire, puis il y a une définition évidemment en renseignement qui fait que les services de renseignement travaillent sur ces individus qui développent une forme de radicalité violente autour de la cause écologiste, enfin telle qu'ils l'entendent eux, et donc les services de renseignement travaillent sur ces individus parce qu'ils ont un potentiel violent énorme, et donc un certain nombre d'entre eux sont fichés S, hein, au même titre que des terroristes islamistes, donc de manière à pouvoir être suivi. Certains d'entre eux seulement, hein, évidemment. Mais pour certains d'entre eux, on peut évidemment qualifier ça d'éco-terrorisme. En tout cas, dans le jargon des services de renseignement, c'est un terme qui est évidemment utilisé, employé. Et quand on voit la gravité des exactions commises samedi, individus masqués, cagoulés, qui vont au contact des forces de l'ordre...
Et vous comprenez quand même que c'est un terme qui peut choquer une partie de la famille politique, écologiste. Parce que, dans la tête de tout un chacun, quand on pense, vous le disiez vous-même, terrorisme, on pense attentat. On n'est quand même pas dans ce...
Oui, mais ce que je vous explique... Justement, c'est que le terrorisme, ce ne sont pas que des attentats. Ce sont tous ces actes qui sont illégaux, qui sont répréhensibles, poursuivis par le code pénal et qui visent à semer des troubles, à créer des troubles graves en vue de semer l'intimidation ou la terreur. Et pour certains individus, pour certains de ces individus, c'est bien le cas. Et c'est à ce titre qu'ils sont suivis par les services de renseignement.
Donc voilà, c'était l'intervention de Nunez, hein, donc qui essaye de faire sérieux en donnant la définition du code pénal. De l'acte terroriste hein, qui est pas une définition, c'est on ne peut plus vague, hein, c'est troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Par contre, il y a un texte qui est très précis et qui fait suite à celui-là, c'est l'article 421.2 du Code pénal et qui reprend exactement la même définition, donc troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, et qui parle du coup de ce que c'est que l'éco-terrorisme, et qui poursuit du coup cette définition avec le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, des éléments, ou des composants alimentaires, ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme, des animaux ou le milieu naturel. Donc là, évidemment, on a exactement ce qui a été repris comme dénonciation de ces propos-là, hein, c'est-à-dire que cette définition-là de l'écoterrorisme s'applique ou s'appliquerait éventuellement grandement à d'autres personnes que les militants écologiques, hein, à commencer par tout le monde industriel.
En fait, c'est ceux qui polluent, c'est pas ceux qui défendent la nature, quoi.
Bah, ça pourrait être éventuellement des gens qui introduisent un agent pathogène dans l'eau, enfin des trucs gravissimes, mais ça pourrait être aussi tout à fait une politique de sécurité intérieure que celle de s'attaquer à des grands groupes pétroliers, des grands groupes agroalimentaires qui répondent parfaitement à cette définition du code pénal et non pas à celle d'un écoterrorisme qui n'existe pas pour l'instant dans le droit français. Hein. Mais bon, c'est une définition en effet du renseignement que Nunez nous propose, hein, c'est celle de la criminalisation de la moindre violence militante. Hein. Et alors quand il parle d'acculturation et de référence au modèle anglo-saxon, hein, ça reprend exactement la politique qui a été mise en place par le FBI hein, depuis les années à la suite des attentats de 2001. Et qui a développé donc une définition de l'écoterrorisme qui est celle-ci, hein, c'est l'usage ou la menace d'utiliser la violence de manière criminelle contre des victimes innocentes ou des biens par un groupe d'orientation écologique pour des raisons liées à l'environnement ou visant un public au-delà de la cible. Et donc cette définition-là de l'écoterrorisme, hein, comme ciblant des militants, elle a été mise en place pour réprimer des militants écologistes. Essentiellement, il y en avait deux qui étaient connus, c'était l'ALF, le Front de Libération Animale, donc qui s'attaquait au laboratoire ou à l'agro-industrie, et l'ELF, le Front de Libération de la Terre, qui sont des mouvements qui n'ont, pour ainsi dire, pas fait une seule victime. Il y a eu une victime, en effet, qui est... quelqu'un qui a été blessé, parce qu'une des... c'était avant que ce soit l'ELF, c'était Earth First, dans les années 90, qui militait contre la, déforestation. Ils avaient une technique, justement, pour éviter l'abattage d'arbres, je ne sais pas si c'est des pins ou quoi que ce soit, qui consistait à planter des clous dans les troncs. Et donc, il y a en effet un bûcheron qui s'est blessé grièvement parce que ces clous-là étaient faits en effet pour empêcher d'abattre les arbres. Et c'est à peu près la seule victime qui aurait eu de ces mouvements qu'on pourrait plus appeler des mouvements de désobéissance civile dans la lignée de taureaux ou ce genre de choses, quoi. Donc par contre, l'écoterrorisme, c'est quelque chose, ou la lutte contre l'écoterrorisme, c'est quelque chose qui est enseigné dans les écoles de police. J'ai trouvé, on trouve ça sur le site de l'École nationale de la police. Donc il y a des formations. J'en ai trouvé une, par exemple, une formation qui était l'écoterrorisme expliqué aux futurs lieutenants de police. Et donc... on peut lire que, en propos liminaire, M. Dessier, donc, qui est celui qui fait la formation, a expliqué que nos sociétés étaient impactées par un triple phénomène, la perte de repères, l'accroissement de temps libre et l'impact du numérique. Cette situation trouverait son origine dans une vision du monde difficile à objectiver en raison d'une globalisation accélérée des échanges. En réaction, des individus s'approprient de nouvelles causes à défendre, comme l'altermondialisme, l'écologie, le droit des animaux. Notre orateur a mis en lumière l'analyse psychologique des étapes menant à la radicalisation, défi auquel les systèmes de renseignement et de sécurité doivent répondre. Donc voilà, c'est à peu près ce qu'on met en place comme idée dans les écoles de police et ce qu'on voit à l'œuvre actuellement. Alors, puisqu'on était sur ces histoires de... d'écoterrorisme, puisqu'on est dans Tout est pas rien, il y avait un documentaire qui était...
Non, il n'y a pas encore.
Non, S'informer autrement, pardon. il y avait un documentaire d'Envoyé spécial la semaine dernière qui était particulièrement intéressant, qui était donc sur le lac de Caussade. Donc le lac de Caussade, c'est une retenue artificielle d'eau qui a été...
C'est où ?
C'est dans le Tarn. C'est dans le Tarn, c'est pas très loin de Sivens.
J'y suis déjà allé. C'est très beau.
Et donc, c'était dans l'émission qui était consacrée aux mégabassines, il y avait l'illustration de cette retenue artificielle qui a été mise en place par la Chambre des agriculteurs en toute illégalité. Je crois que c'est en 2018. Il y avait un projet donc de retenue d'eau pour alimenter une quarantaine d'exploitations, donc du maraîchage, mais surtout du maïs, du colza, enfin ce qui pompe énormément d'eau. Et donc c'est les agriculteurs du coin qui ont décidé, parce que on leur refusait l'autorisation de faire cette retenue là, notamment. François de Rugy, qui était ministre à l'époque, avait rappelé la non-conformité du projet à la réglementation relative aux espèces protégées, au schéma d'aménagement et à la gestion de l'eau, et aux directives européennes visant le bon état des masses d'eau. Donc voilà, ces agriculteurs n'ont pas trouvé d'entrepreneur qui accepte de faire cette retenue. Alors, cette retenue, elle est quand même importante, elle est plus grande que... la mégabassine dont on parlait, puisqu'elle fait 900 000 mètres cubes, celle de... J'ai perdu le nom.
Sainte-Soline.
Celle de Sainte-Soline en fait 700, et elle occupe 20 hectares. Et donc, ils ont fait cette mégabassine en toute illégalité, elle est toujours en place.
Et ils n'ont pas été... ils ne sont pas inquiétés par la justice pour ce truc, quoi.
Alors, il y a les gendarmes qui ont débarqué, qui ont voulu, pendant qu'ils menaient les travaux, leur dire qu'il fallait arrêter. Bon, ils n'ont pas arrêté. Ils ont eu un procès avec de la prison ferme À la suite de ça, ils ont fait appel. Et à la suite de leur appel, bon, ils n'ont pas été condamnés à de la prison. Ils ont eu quelques dizaines de milliers d'euros d'amende.
Mais en aucun cas, la destruction de ce truc...
En aucun cas, en tout cas dans toutes les coupures de presse que j'ai vues, en aucun cas ils ont eu de lacrymo. En aucun cas, ils ont eu 1700 flics qui ont débarqué pour leur confisquer leurs engins de chantier. Enfin, en tout cas, ils ont pu continuer et leur projet à terme et le mener à bien.
Ouais. Ça va dans la suite de ce que le gouvernement défend, de toute façon, hein, les agriculteurs, pas l'écologie.
Pour alimenter ce truc, il y a... en France, on a une secrétaire d'État en charge de la citoyenneté. Donc elle dépend directement du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, qui s'appelle Sonia Baques, et qui, dans une tribune au JDD, là, ce week-end, ou enfin il y a quelques jours, compare la désobéissance civile, dit la désobéissance civile ou l'antichambre sournoise du séparatisme. En gros, voilà, ouais. En gros, même voilà, il y a plus droit. Hein, vous êtes des terroristes. Donc évidemment, elle s'appuie sur Sainte-Soline, mais elle est OK et elle pousse le. Enfin après, on s'en fout de ce qu'elle racontait dans le JDD, mais on sait très bien cette manière de outrancière d'avancer des choses. Et puis il en reste. Enfin, allez-y, balancer des trucs grossiers. Il en restera toujours quelque chose. Juste sur donc la désobéissance civile serait une forme de séparatisme. Juste redire qui est Sonia Baques. Donc Sonia Baques, secrétaire d'État chargée à la citoyenneté. C'est aussi une dure des anti-indépendantistes en Nouvelle-Calédonie. C'est la droite tout à fait décomplexée qui fait des petites alliances avec soit au mieux des gens du RN, au pire des acolytes de Zemmour. Et ça ne semble pas poser problème... au sein du gouvernement, hein, c'est tout à fait Macron compatible. Voilà, donc c'est juste pour dire que ça pousse loin, quoi, ces trucs-là.
Et puis pour accompagner ça aussi, je pense qu'il y a deux infos qu'il faut qu'on relaie. Hein, c'est la première, c'est la mise en conformité, je sais plus comment ils appellent ça, mais de la porcherie de Landunvez. Hein, c'est sorti il y a deux jours, je crois.
Il manque plus que l'accord du préfet.
Et ça a été donné.
Le préfet, non, pas encore. On attend sa décision. C'est le comité là qui est constitué de personnel, enfin de gens de la SDSEA.
C'est le CODERST.
Ouais, le CODERST, le truc. Bon, il était déjà pourri d'avance, hein, ce truc. Donc on savait que ce CODERST allait valider l'extension. Et maintenant, on attend la décision de la préfecture.
Tu avais terminé ?
Et non, il y a une dernière répression qu'il faut qu'on évoque, c'est la dissolution du bloc Lorrain, donc qui a été entamé là. Il y a une très bonne vidéo, qui est tout à fait revigorante, qu'il faut aller voir sur Blast, où il y a notamment le président du bloc Lorrain qui explique l'affaire. Il y a aussi un militant qui anarchiste et écologique qui s'appelle Loïc Schneider, qui lui a passé un an et quatre mois, je crois, en prison pour avoir participé au G20 de Hambourg. Cette vidéo est vraiment vraiment intéressante, quoi. Enfin, on n'a pas vraiment le temps d'en parler, mais allez voir la vidéo de Blas parce que c'est rafraîchissant.
Bien. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce sujet ?
Non.
Non ? On passe au suivant ?
Ouais.
Steph ?
Le sujet d'après ?
La France-Afrique ?
Ouais.
Un peu ?
Un tout petit peu. Le sujet d'après, c'est une date, 1982. Est-ce qu'on pourrait imaginer une Angleterre qui serait toujours dirigée par Margaret Thatcher ? Est-ce qu'on pourrait imaginer les États-Unis toujours dirigés par Ronald Reagan? Est-ce qu'on pourrait imaginer l'URSS, qui n'existe plus, toujours dirigée par Léonid Brejnev? L'Allemagne par Helmut Kohl? L'Afrique du Sud par Peter Botha? La France par François Mitterrand? Non, très clairement, on ne pourrait pas l'imaginer. Pourtant, au Cameroun, hier, on a fêté les 40 ans en tant que président de Paul Biya. Ce qui veut dire que cet homme-là, en 82, pendant que tous les autres, Mitterrand était élu en 81. À aucun moment, au Cameroun, il n'y a eu d'alternance politique. En sachant que quand Paul Biya arrive en tant que président en 82, ça fait déjà 20 ans qu'il est aux affaires, avec des grosses, grosses responsabilités au Cameroun. Tout ceci se fait évidemment, donc ça fait 60 ans, hein, Paul Biya. Tout ceci se fait évidemment avec une forme d'accompagnement de son pouvoir dictatorial, sans jamais de remise en question. La première sortie du dernier mandat d'Emmanuel Macron, donc en juillet 2022, le premier représentant étranger qu'il est allé voir, c'est Paul Biya, au Cameroun. Il a évidemment parlé de la société civile, de la jeunesse, de l'amitié franco-camerounaise, de l'histoire partagée. Il n'y a jamais parlé de droits de l'homme, d'alternance politique. En gros, il a encore une fois accrédité le règne de Paul Biya. Pendant ce temps-là, c'est les Camerounaises et les Camerounais qui en prennent plein leur gueule, qui souffrent, qui meurent. Et je voulais juste... voilà, c'était hier, c'était les 40 ans de règne de Paul Biya. Et c'est un scandale. Allez voir sur le site de Survie. Il y a plein d'articles qui sont faits. Il y a aussi, pour parler de, un peu de la situation au Cameroun, un journaliste camerounais qui va être accueilli dans plein de villes en France, dans des grandes villes, hein, à Toulouse, à Strasbourg, à Paris, à Grenoble. Là, dans une dizaine de jours, enfin là, tout de suite d'ailleurs, à Paris, c'est après-demain, le 9 novembre. Jean-Bruno Tagne, journaliste, viendra parler de la situation au Cameroun et aussi de la responsabilité des politiques africaines depuis françaises depuis 40 ans pour le maintien du régime dictatorial de Paul Biya. Voilà.
Bien. Effectivement, ce fut court.
Ouais.
Ouais, je m'y attendais pas, je suis super prêt. bah, du coup, on arrête cette deuxième partie-là.
Tout à fait.
On va faire une seconde pause musicale. On n'est pas perturbé du tout par nos problèmes de câble aujourd'hui. Dans cette pause musicale, on vous propose Hubert Félix TFN qui va nous faire Je suis partout. Et la ZEP, qui est Zone d'expression populaire, le groupe, qui va nous faire La gueule du patrimoine. A tout de suite.
Le médaillé qui fait son beurre,
partout.
Dans la fiton du contre-indale, à poil devant les cannibales, dans le train Paris-Gare d'Auschwitz,
partout.
Entre les camps des amants juifs,
partout.
Dans 6 millions d'enfants gazés,
partout.
Qu'on voudrait me faire oublier. Je suis partout, partout, partout.
Et
dans
tira toute la nuit dans sa niche.
Partout.
Dans l'œil du bougnoulé, écœuré par cet occident périmé. Dans le boxe des innocences.
Partout.
Avec ma putain de bonne conscience.
Partout.
Dans la cour du rocker poubelle.
Partout.
Qui joue son jeu universel. Je suis partout.
Certains participants affichent de manière tranchée leurs convictions sur ce débat.
Je pense qu'il est plus qu'utile, qu'il est même indispensable, et qu'il est temps qu'on réagisse parce qu'on va se faire bouffer.
Par qui? Par quoi?
Par qui, par quoi? Il y a déjà 10 millions, hein? Mais il faut bien réfléchir. 10 millions que l'on paye à rien foutre.
Ça jase, on a fait le hella dans le village. Que vois-je, la Gaule est envahie par les sauvages. Outrage, on a fait criser tout le voisinage. En sortant les derbocas dans la salle de mariage, ils ont la rage de voir nos tronches dans les parages. On a sali la moquette, les murs et le carrelage. Semé la zizanie, foutu le feu à leur étage. Salopé leur paysage, on leur a fait un petit carnage. Sacrilège, y'a du hlel à la cantine. La charpa dans la cuisine, des hijabs à la piscine. Et des jolis tapis de prière dans les usines. Ils ont tellement les nerfs qu'ils sont accros à la spirale. Mais là c'est trop tard, on a passé la douane, on a passé la frontière, reprends à Doliprane. C'est la chanson française qui leur fait mal au crâne. Tu m'étonnes qu'ils supportent plus nos coins. On a saboté la langue de Molière, démasqué le racisme de Voltaire. On a planté la tente, maintenant faudra s'y faire. Les nègres vous emmerdent comme dirait M. Césaire. T'as vu le bazar, t'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu le bordel avec nos tronches de polygame. Ça jase, y'a madame, alors grand dame. T'as vu la gueule du patrimoine, t'as vu le bazar, t'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu le bordel avec nos tronches de polygame. Ça jase, y'a madame, alors grand dame. T'as vu la gueule du patrimoine. Du poulet, du folklore et de la danse du vent, de l'exotisme. Servi avec un thé à la menthe, des petites pâtisseries, des fatmas obéissantes. Bien dociles pour amasser, nettoyer, torcher leur viande. Mais que dalle, le projet a capoté, le plan a mal tourné. Laisse-moi jubiler, ils sont tout pâles. On a cassé le gouvernail, aïe aïe aïe. On leur a foutu la pagaille. Si tu croyais qu'on allait dire merci, merci la France, merci Sarkozy. Toujours poli, wallah je suis intégré. Tu peux toujours courir pour faire de moi un bruit, oui oui. T'as vu le bazar, t'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu le bordel avec nos tronches de polygame. Ça jase, y'a madame, alors grand dame. T'as vu la gueule du patrimoine, t'as vu le bazar, t'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu le bordel avec nos tronches de polygame. Ça jase, y'a madame, alors grand dame. T'as vu la gueule du patrimoine.
Sympa cette musique.
Merci, merci.
Le métissage, le brassage des cultures. Ces jeunes qui expriment leur colère, j'adore.
Ouais, c'est mignon, un petit beurre qui rappe sur ta musette. Vas-y, MC Cosette, fais-nous tes chansonnettes. À quoi le contestataire, à la bonne franquette. Symbole d'intégration, c'est du Zola en casquette. Vas-y, fais-nous chialer sur un air d'accordéon. Raconte-nous tes petites histoires d'enfants d'immigration. Raconte-nous les contrôles, les discriminations. Allez, réveille en nous un peu d'indignation.
D'habitude, j'aime pas le rap.
Ah bon ?
Mais ce que j'aime chez vous, c'est que vous ne tombez ni dans la victimisation, ni dans les clichés. Et puis, quelle maîtrise de la langue française.
Va te faire mettre avec ta langue française. Tes compliments, pour moi c'est de la foutaise. Que du blabla qui me fait perdre mon temps. Alors emballe tes bons points et tes encouragements dans ma zone d'expression populaire. Y'a que des petites gens et des bougnoules en colère. Des râleurs, des cassos, des criseurs et des brailleurs. Tu marches avec nous ou tu vas voir ailleurs.
T'as vu le bazar, t'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu le bordel avec nos tronches de polygame. Ça jase, y'a madame, alors grand dame. T'as vu la gueule du patrimoine, t'as vu le bazar. T'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu le bordel avec nos tronches de polygame. Ça jase, y'a madame, alors grand dame. T'as vu la gueule du patrimoine, t'as vu le bazar. T'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu le bordel avec nos tronches de polygame. Ça jase, y'a madame, alors grand dame. T'as vu la gueule du patrimoine, t'as vu le bazar. T'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu le bordel avec nos tronches de polygame. Ça jase, y'a madame, alors grand dame. T'as vu la gueule du patrimoine.